la papa et Mariotte, toi dans de la voilà papa et Cristobal, laisse dans ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc il amène? Cubu, licou, pou, io, ia, c'est tonton Archibald, mémé, Philomène, bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade, fini rigolade, la la, quelle salade! Et tes deux potes, visez papa, visez-moi ça, comme il faut que trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et dis tes potes, hola, hola, voyez-moi ça, comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas qu'elle est vétuste. Tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze, ça, c'est du boulot. Cubu, licou, pou, io, ia. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, io, ia. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dis tes potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas, où sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Et ben voilà, c'est 22h05 et nous sommes à la causerie. Comme tous les dimanches de 22h à 23h, vous excuserez ma voix. Moi c'est Fab, mais j'ai une super crève, ce qui fait que j'ai une voix assez étrange, longtemps dans le micro. Et autour de la table, il y a aussi Emma.
Bonsoir.
Et à la technique, il y a Jean-Yves.
C'est ça, bonsoir.
Et comme vous avez tous été très très gentils cette semaine, et ben on vous a concocté une petite émission rien que pour vous ce soir.
Ça change de d'habitude.
C'est ça.
Je sais pas, c'était pour faire une introduction un peu différente. Alors, vous allez pouvoir réagir à l'émission soit en écrivant sur notre blog qui se trouve à
blogs.radiocanu.org/lacauserie.
Voilà. Ou nous écrire un mail à
lacauserie.canu@gmail.com.
C'est beau.
Ça n'est pas des bons élèves quand même.
C'est super beau. Alors en fait, il y a un énorme ronronnement qu'on entend, mais je sais ce que c'est, mais on va le faire après. Alors voilà. Mais vous n'entendez pas, vous, normalement, les auditeurs et les auditrices. Et donc, on va. Si tu es là encore, tu as oublié ton CD. Monsieur Anglemort qui était avant nous.
Je crois qu'il n'est plus là.
Tant pis, alors on va te le garder au chaud. Et vous savez tout, amis auditeurs, amis auditrices, tout ce qui se passe à Radio Canu. On va commencer tranquillement l'émission.
Est-ce qu'on n'en profiterait pas aussi pour...
J'ai oublié quelqu'un, c'est ça.
Non, si on peut peut-être passer le bonjour à Clara.
Oui,
qui
voilà.
Pas là,
oui, salut,
oui,
Clara.
Bonjour.
Ouais, je suis obligé de faire la technique. Quoi. Enfin, tu vois le truc quoi. Et non, remercier les quelques personnes qui ont fait des retours par rapport à l'émission qu'on a fait la semaine dernière, l'interview de Mélusine Vertelune. Alors les gens, laissez des commentaires sur le blog. Ça peut être vachement bien parce que justement, je pense que ça peut aussi ouvrir des espaces de discussion et tout ça. Et ensuite, un petit message aussi à ceux qui ont des techniques quand même que je nommerais lâches, d'envoyer un petit mail et tout, sans retour possible, sans le signer. C'est dommage en fait d'avoir des positions comme ça, qu'on puisse pas discuter de tout ça. Donc voilà, le message il est passé. Je ne pense pas qu'on ait des suites parce que... La lâcheté ne donne souvent pas de suite. Mais voilà, le message est quand même passé. Et puis, on fait quoi ?
En fait, je trouve que t'en as pas dit assez ou dit trop. C'est juste qu'on a reçu un mail un peu insultant, et on va le dire clairement. Oui. Et voilà. Mais c'est pas grave, on aime bien, ça veut dire qu'on bouge les esprits. Ça sert à ça aussi, la causerie.
Ouais.
Donc, ouais. Et Emma,
oui,
en parlant de bouger quelque chose, toi, tu vas nous parler d'un festival qui, normalement, n'est pas censé bouger les esprits. Mais plutôt une autre partie du corps.
Oui, ce soir je vais vous parler de Only Porn. Alors je ne sais pas, on en parlait entre nous, s'ils se sont accoquinés avec Only Lyon, mais bon, voilà, faites attention à votre nom, mes petits chéris.
Non, mais c'est bizarre ce qu'on imagine, tu sais, le logo de la ville dessus.
Only Porn, je ne sais pas, c'est étrange.
Ça fait bizarre, je trouve, voilà.
Du coup, ça va faire la troisième année que ça se passe. Ça va se passer du 11 au 14 décembre, la War Public, donc à Lyon. Comme vous pouvez donc le constater, je ne suis pas encore allée faire mon tour, mais j'ai eu des échos des années précédentes. Du coup, ce petit festival donc, qui est présenté comme un festival d'art pornographique nous propose donc, des soirées avec des projections de films. Alors, toutes ces soirées qui se déroulent donc, sur 4 jours sont à 5 euros. Et puis, il y a des soirées clubbing. Alors déjà, je me suis demandé ce que ça voulait foutre là-dedans, mais pourquoi pas.
C'est pour que tu puisses bouger ton corps après un bon porno.
Exactement. Et du coup, il se présente comme le seul pornfest de France.
Alors, juste comme ça, si ma mémoire est bonne, ils essayent un petit peu de pomper ce qui s'était fait à Berlin à une époque, les fameux pornfestivals de Berlin. Je suis pas sûr qu'on soit à la même échelle.
Je ne pense pas.
Ni dans la même logique, mais bon, voilà.
Non, et puis moi j'ai une question. Ça peut paraître totalement stupide, ou peut-être que tu vas y répondre après.
Vas-y.
c'est quoi la différence entre un festival porn et parce que faire des trucs de cul, il y en a des festivals.
Ah mais tu sais de... un festival porn tout de suite déjà c'est anglophone. Alors ça sonne mieux et puis c'est de l'art quoi. Attends, c'est
d'accord.
Pas le salon du X là à Eurexpo machin.
D'accord.
Tu vois. Alors oui, en plus ça se fait au lavoir public. Alors vous savez, nous à la causerie, on ne vous l'a jamais caché. Au début, on aimait bien le lavoir public, et puis depuis quelques temps, ben voilà. Bon, peut-être que toi aussi, ami auditeur, tu fais partie de ce public-là, mais il y a ces espèces d'énergumènes, autrement dit hipsters, bobos, tous ces petits noms hein, qu'on aime bien leur donner, qui descendent au lavoir public et qui aiment bien. Recracher leur bière qu'ils ont payé 2 euros en disant non mais c'est tellement de la merde le dernier Tarantino. Enfin bref, voilà, l'avoir public nous a déçus. Je te cracherai encore dessus ce soir.
Autant le dire.
Autant le dire.
Non, ce qui est bien, c'est que c'est pas une personne physique, c'est un lieu.
Oui.
Donc tu craches sur un lieu, c'est cool.
Non mais c'est vrai que l'ambiance a sacrément changé.
L'ambiance a sacrément changé et ça se veut surtout désinvolte alors qu'en fait on a l'impression que ce qui se passe là-bas pourrait se passer dans n'importe quel lieu. Donc enfin voilà ça. Et donc ce super festival a pour partenaire Pink Télé, Hétéroclite, Extrême Center, je sais pas si vous voyez, c'est les énormes mastodontes.
Les supermarchés du sexe.
Les supermarchés du sexe, ouais. Et Écran Mixte. Alors bon, vous en a déjà parlé à la causerie, mais c'est vrai que c'est... Vous reconnaissez là un peu nos petits chouchous. Et du coup, alors, ce festival, on peut pas trouver énormément d'infos. Alors, c'est ça déjà. Moi, j'ai pas réussi à comprendre exactement qui l'organisait. Les partenaires sont affichés, le lieu est affiché. Mais voilà, il n'y a pas grand chose. Effectivement, il y a un prix. On voit que les soirées sont à 5 euros. Ils ont l'air de faire un pass pour les 4 soirées à 10 euros. Bon, ce qui est plutôt honnête en termes de prix, mais du coup, on ne sait pas exactement comment c'est financé. Bref, moi, je me suis posé pas mal de questions, mais c'est surtout qu'ils nous ont écrit un petit manifeste de ce qui était un peu le festival porn pour eux. Alors, ils nous disent « Parce que nous pensons que le porno et le sexe ne sont pas un espace marchand, mais un espace de liberté et de création.
Oh, » c'est beau.
C'est beau. Et mais ils nous disent aussi « Parce que nous sommes pro-sexe. » Alors...
Donc il y a des gens qui sont anti-sexe, a priori. Donc.
A priori, et puis... Okay. Moi j'aime bien... Enfin, ça veut tout... Enfin, le pro-sexe, ça veut tout et rien dire. Mais c'est surtout que j'aimerais bien... Enfin, voilà, c'est ça. C'est « Nous sommes pro-sexe. » Qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Est-ce que ça veut dire que, du coup, ils sont pour la diffusion libre de tout et n'importe quoi ? Du plus mauvais porno à quelque chose de plus, justement, de... J'ai un petit bug.
Ah, tu as un bug sur le nom.
l'équivalence français, je vous rassure, vas-y. Je ne suis pas une hipster bilingue, mais j'ai du mal.
Vas-y, balance en anglais.
Neutre en genre, on va dire, bref. Sachant que la programmation s'appelle en plus de l'art ou du cochon.
Ouais.
Ce n'est pas une blague, c'est vraiment le titre qu'ils ont donné ça. Et ils nous font donc tout un manifeste en nous disant que là, ils organisent ce festival pour déjouer les stéréotypes, le genre. Mais à côté de ça, donc, au niveau de la programmation, je reviendrai dessus, au niveau des réalisateurs, j'ai trouvé ça pas mal, donc je ne suis pas que critique. Y a une réalisatrice d'ailleurs que je conseille et que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Erika Lost, qui a Alors, j'aime pas trop cette étiquette-là parce qu'on la désigne, vous savez, comme Ovidie, une réalisatrice porno pour femmes. Alors que je trouve qu'en fait, comme Ovidie d'ailleurs, son porno est regardable par tout le monde, et j'espère par tout le monde, parce qu'elle a une autre manière de filmer. Qu'elle a justement, elle évite les rapports de domination homme sur la femme, et ses acteurs prennent énormément de plaisir à jouer. Donc voilà, il n'y a pas que du négatif là-dedans. Mais à côté de ça, à côté des petites réalisations et tout ça, on a, par contre, ils ont mis en place un l'autoporno.
L'autoporno.
L'autoporno. Donc je ne sais pas si vous voyez, peut-être si vous allez visiter vos grands-parents à la maison de retraite et qu'il y a le bingo.
Un petit bingo,
est-ce pas? Eh bien, il y a le bingo porno. Alors, voilà, pourquoi pas. Et enfin, moi, ma crainte, alors je suis pas encore allée au festival, donc peut-être que je m'y rendrai et je rechroniquerai par la suite. Mais j'ai un peu une crainte qui est pas énormément de différence entre ce qui nous présente être un festival alternatif, entre ce qui était organisé, je sais pas si vous vous souvenez l'année dernière de l'Orgasme Week par
AIDS.
Ouais,
tout à fait, ouais.
Et en fait, par d'autres manifestations dans le genre, les éditions précédentes, en fait, le souci, c'est qu'elles étaient énormément tournées sur certaines pratiques sexuelles qui, au final, déjouaient pas forcément le genre. Elles étaient énormément centrées sur le plaisir de l'homme, pas forcément sur celui de la femme. Mmh. Et il y a toujours, en fait, moi, je trouve dans ces espèces de festivals, une négation d'autres formes de sexualité. Alors, moi, par exemple, je me pose la question des asexuels. Les asexuels quand même existent, même si certaines personnes aiment le nier. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit à ça. Enfin, les asexuels regardent du porno, quoi. Je veux dire, ça existe. Du coup, moi, je me pose la question, par exemple, ça serait intéressant d'avoir un festival qui poserait cette question, mais quelle forme de porno pour des asexuels?
Ou pour des personnes handicapées aussi.
Pour des personnes handicapées.
Moi, il y a un truc qui m'éclate beaucoup en ce moment, et je vais faire un petit coucou à Émilie Jouvet qu'on avait eu en interview, parce qu'elle a fait un super truc autour, justement, une petite chronique en parlant du fait que dans le queer, on oubliait beaucoup les corps différents, c'est-à-dire les personnes qui sont handicapées, les personnes qui ont des corps différents, tout simplement. Et je trouvais bien qu'elle le rappelle, parce que je trouve, voilà, ça aussi dans les festivals un peu, comme tu disais, hipster autour du porno, et ben en fait, on nous dit, c'est le festival des sexualités différentes, des corps différents, mais en fait on se rend compte que globalement à l'écran on voit des gens, ils sont, alors ouais, ils sont un peu plus percés, un peu plus tatoués, mais généralement ils sont gaulés comme des demi-dieux grecs pour les mecs, et pour les nanas elles sont fines comme des bâtons, et que voilà, et on dit bah oui c'est différent, mais il y a un moment donné je vois pas où est la différence, si c'est juste se rajouter 3 tatouages et 2 piercings. Ouais, ben voilà, c'est pas d'une transgression énorme, quoi, enfin de mon point de vue, mais après...
Vous attendez un truc.
Ben, on attendait que tu parles. Ouais.
Non, en fait, je repensais à certains trucs. C'est, au final, déjà, c'est quoi? C'est un festival porn ouvert à toutes les sexualités. Donc, déjà, hétéro, homo, lesbienne, bisexuelle.
Apparemment, il y a même un réalisateur, en fait, qui aurait demandé à 7 réalisateurs trans, si j'ai bien compris, de réaliser des petits courts-métrages. Donc, voilà, effectivement, il a l'air ouvert à tous. Mais. Enfin, voilà, je ne sais pas si... Du coup, ça répondait à ta question. Mais le souci, c'est que moi, j'ai l'impression qu'on se retrouve... encore une fois, on se retrouve un peu dans une société qui nous dit qu'elle est très libérée au niveau du sexe. Mais au final, moi, j'ai l'impression que ce petit festival, après, bon, encore une fois, je ne suis pas allée, je ne m'y suis pas rendue, mais stigmatise déjà ceux qui ne pensent pas pareil. Et j'ai l'impression, en fait, qu'à force de dire « Ah, mais on va déjouer les codes, on va déjouer le genre », on crée encore plus de codes que ceux qui sont, en fait, prônés par la morale judéo-chrétienne. Et du coup, ce n'est pas si libéré que ça. J'ai l'impression qu'on en crée encore d'autres en stigmatisant des personnes, en rejetant, parce que ce festival, en fait, c'est aussi dire « Nous, on crée quelque chose d'alternatif mais du coup, ça veut dire aussi qu'on... J'ai pas l'impression que ce soit tant ouvert que ça. Je me demande si, je me pose la question de vraiment, est-ce que tout le monde est admis? C'est bien beau de dire « On est ouvert à tous », mais... Est-ce que ça crée l'envie à tout le monde d'y aller? Moi, je me pose vraiment la question de moi, par exemple, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là-bas, quoi?
Mais déjà, moi, je trouve que de poser dans un manifeste, nous, on est pro-sexe. Ouais. C'est le genre de phrase que je commence à entendre à toutes les sauces et qui m'agace au plus haut point. Parce que maintenant, dès qu'on commence à réfléchir à des problématiques du genre, c'est un petit peu, c'est en lien avec le document qu'on a passé de Méduzine où elle parle d'inceste et qu'en même temps, elle fait une insiste sur la prostitution et sur le, voilà, parce qu'elle estime, elle, que, à un moment donné, on ment aussi à un certain niveau sur la capacité qu'ont les gens de se dédoubler, c'est-à-dire de d'oublier leur corps, voilà. Et je comprends, j'entends parfaitement ce qu'elle veut dire par là. C'est la même chose quand on a des féministes qui vont parler du fait que la pornographie à très grande échelle telle qu'elle est aujourd'hui a une incidence sur la façon dont les jeunes vont appréhender la sexualité et notamment leur rapport entre eux, c'est-à-dire le rapport de domination d'homme sur la femme, et que ça le renforce, parce que la plupart des films porno sont pas ce qu'il y aura dans le porn festival. La plupart des films porno sont des films porno où le mec a tout pouvoir sur la femme, et où la femme, en gros, elle n'a qu'une seule chose à faire, c'est hurler parce que la bite de monsieur lui fait du bien, point barre, quoi. Et je veux dire, il y a un moment donné, dès que des féministes posent cette question-là, et elles sont pas forcément pour l'interdiction de la pornographie,
non,
elles posent la question. Voilà, elles posent la question du volume. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a cette espèce d'accès permanent, et cette espèce de, voilà, et ben tout de suite, il y a des gens qui leur disent, ah, mais vous êtes des frigides et vous êtes pas pro-sexe. Je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. Il y a un moment donné, on a le droit aussi d'interroger des choses sans forcément devenir des espèces de personnes cubénies ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve déjà rien que cette notion de pro-sexe me choque, dans le sens où d'un seul coup il y aurait ceux qui aiment le cul et qui sont super ouverts, et puis les autres c'est tous des frigides un peu cons, tu vois. Et moi je trouve que c'est naze, quoi.
Enfin,
comme,
oui, puis voilà. Enfin, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un espèce de festival qui serait, enfin, qui vante tellement les mérites d'avoir voilà, donné la parole à ces réalisateurs trans. Ça y est, on est le premier festival à faire ça, on a une réalisatrice féministe, et puis tout ça, et puis bon, on a quelques réalisateurs allemands, alors vous savez, dès que c'est allemand, c'est toujours un peu hype et obscur.
Ouais. C'est pour ça qu'on fait des soirées au même endroit en allemand.
Mais enfin, oui, bref. Mais j'ai l'impression que, enfin, voilà, après j'aimerais bien, si les fameux créateurs de ce festival, ouais, les organisateurs peuvent nous répondre, mais peut-être que je vais lancer quelque chose qui n'est pas vrai, mais pour moi, j'ai encore l'impression qu'on nous présente quelque chose qui est complètement hétérophobe. Voilà, qui néglige aussi d'autres formes de sexualité, comme j'ai évoqué les asexuels, mais aussi des corps différents. Moi personnellement, aller jouer au loto pan, ça m'intéresse pas du tout. Pendant que, bah, et, voilà, les personnes d'à côté se sentiront pousser des ailes, parce que tout d'un coup, ça y est, c'est admis de regarder un porno allemand ensemble, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas pour autant qu'on va libérer s'il n'y a aucun débat là-dessus. Et effectivement, si on pousse pas les questions plus loin, quoi.
Du coup, bah, si les organisateurs veulent venir à la causerie pour en parler,
ou organisatrices aussi.
Oui, je globalisais, pardon.
Non, mais c'est pas du tout.
Ben, la porte est ouverte.
C'est vrai, pas ce soir, je crois, mais elle peut être ouverte.
Mais non, je veux dire, voilà. Ils peuvent venir avec plaisir.
Ouais.
Oui.
Eh ben,
on écoute un peu de musique.
Ok, on fait ça alors.
Et voilà, vous êtes de retour sur Radio Canu. Ouh là là, je bug, j'étais encore dans le mood de la chanson. C'est la causerie, et donc on vient de s'écouter Pulp avec Vicious Hardcore. Un titre bien hardcore pour une chanson tout en finesse.
C'est vrai, c'est bien. Ah, moi.
Oui, c'est ça, en fait.
Fad.
Oui, c'est moi. Alors, moi, je voulais parler ce soir d'un sujet. Et vous allez voir qu'on continue dans les sujets polémiques pour la soirée. Ah oui, je ne m'entendais pas, en fait. J'espère que les auditeurs m'entendaient.
Si, on t'entend, mais c'était un peu bas. C'est tout.
Voilà. Donc, en fait, je voulais parler de Exhibit B, qui est une œuvre de spectacle vivant qui est présentée en ce moment à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Je crois que c'est à Bobigny, au théâtre Gérard Philippe. Voilà. Et non, pardon, c'est à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, mais c'était à Saint-Denis, au théâtre Gérard Philippe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Exhibit B ? Alors, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que vu les polémiques, il y a des gens qui en ont déjà entendu parler. C'est une œuvre qui a été montée par un Sud-Africain et un collectif de personnes toutes issues, soit de ce qu'on appellerait en France les minorités ethniques, mais en fait, en Afrique du Sud, ça sur l'inverse, parce que oui, c'est plutôt majoritaire, c'est-à-dire des personnes noires ou issues ou métisses ou issues de la minorité indienne, avec ce réalisateur qui lui est blanc et qui s'en excuse platement. Non, je dis ça parce qu'il a été obligé quasiment de s'excuser d'être blanc, donc c'est un peu terrible. Mais en fait, ils ont monté ça, pourquoi ? Parce qu'ils ont monté une œuvre qui est là pour dénoncer tout ce qui est tout le colonialisme et tout ce qui a concerné l'esclavage autour de la cause noire, notamment du continent africain. Alors, comment il a fait ça ? Il a fait ça par du spectacle vivant, en prenant une trentaine de comédiens et de comédiennes et en leur demandant de rejouer des scènes de la vie quotidienne des Noirs au cours de l'histoire. Alors, quand on dit ça comme ça, les gens vont se dire qu'il leur a fait jouer des choses plutôt bucoliques, et en fait pas du tout. Il est allé très très loin dans la mise en scène, et c'est volontaire de sa part. Il a remis en scène, par exemple, les expositions de têtes de nègres, ce qu'on appelait les expositions de têtes de nègres, c'est-à-dire des noirs à tête coupée. Donc là, vous avez quatre acteurs qui sont dont on ne voit que la tête. Voilà. Il a remis en place les expositions coloniales, c'est-à-dire des noirs empaillés. Donc il y a des gens qui jouent des noirs empaillés, qui voilà, mais qui sont vivants quand même. Je le rappelle, c'est-à-dire que c'est pas des mannequins, ce sont des vrais acteurs. Et il y a aussi des scènes d'expulsion par avion, hein, ça c'est ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire où vous voyez une personne attachée à un siège d'avion, bâillonnée avec une seringue dans le bras, c'est-à-dire pour signifier le fait qu'on l'endort pour pas, comme un animal, pour pas qu'il s'énerve à être envoyé dans son pays, comme dirait quelques fachos bien placés. Et il y a en fait tout un tas de scènes comme ça qu'il a remis en cause, il y a une vingtaine de tableaux. Et donc, en fait, il fait rentrer les spectateurs 20 par 20 dans l'espace, et vous rentrez toutes les 20 minutes. Donc, vous avez 20 minutes, 20 par 20, et vous déambulez dans ces différentes scènes. Et en fait, le but de l'exposition, c'est que comme tous les acteurs sont vivants, et bien vivants, ils doivent capter votre regard. Et l'idée, c'est ça, c'est de vous mettre mal à l'aise, c'est-à-dire de vous mettre face au regard d'êtres vivants qui vous regardent l'horreur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et le but est de vous confronter, en fait, à ce qu'a été l'humanité, ce que l'être humain a pu faire, notamment aux personnes de couleur, comme on dit, voilà, ou plutôt, je préfère, moi, dire noir, parce que, voilà, à un moment donné, de couleur, ça veut pas dire grand chose. Donc, aux noirs d'Afrique, ce qu'ils leur ont fait subir. Alors, Brett Bailey, c'est le nom de l'artiste qui a fait ça. Il est né au Cap en 67, sous l'apartheid. Et en fait, quand il était petit, il avait plein de copains et de copines qui étaient les enfants des gens qui travaillaient chez lui. Donc, il était vachement pote avec des noirs sud-africains ou avec des métis sud-africains. Et en fait, et ben, dans sa famille, on lui disait qu'il avait pas le droit parce qu'en fait, ça allait le contaminer. En fait, c'est le mot qu'il employait. C'est qu'on lui disait, tu vas être contaminé par ces gens. Alors lui, il comprenait pas trop où était le problème. Et il comprend toujours pas. Il dit encore aujourd'hui, il arrive toujours pas à comprendre comment l'apartheid a pu exister. Donc voilà, même s'il en comprend le principe politique, il a du mal à comprendre que autant d'êtres humains aient pu accepter l'apartheid.
Et adhérer,
les horreurs qu'on voyait. Parce que lui, ce qu'il remet en scène, c'est ce qu'on voyait. Donc il dit, compte tenu de ce qu'on savait et de ce qu'on voyait, comment est-ce qu'on a pu accepter l'apartheid? Il y a notamment une scène aussi dans Exhibit B où il met en scène le lynchage. Donc voilà, vous avez comment on attachait les personnes avant de les lyncher. Voilà, enfin c'est un peu, c'est très violent, hein, c'est volontairement violent. Alors lui, il a monté ça pourquoi ? Parce qu'en fait, il estime que le spectacle vivant doit servir à interroger le politique et doit servir à interroger ce qu'on n'interroge pas. C'est-à-dire qu'en gros, lui dit, ben oui, dans les livres d'histoire, on dit il y a eu le colonialisme, on dit il y a eu l'esclavage, mais en fait, on n'explique pas vraiment ce que c'était le colonialisme et l'esclavage qu'il y avait derrière, ce que les êtres humains subissaient, ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient. Et donc lui, il a créé ça. Et alors je le rappelle, il l'a pas créé tout seul. Hein, il l'a créé avec des acteurs et actrices noirs parce qu'il avait le besoin d'exprimer ce que son pays avait fait subir à la majorité de la population de son pays. Mmh. Et en fait, par extrapolation, parce qu'en fait, il s'est intéressé à tout le continent africain, il s'est rendu compte que c'était extrêmement répandu et qu'en fait, finalement, ça avait pratiquement existé sur tout le continent africain sous des formes différentes. C'était pas partout l'apartheid, il y a eu l'esclavage, il y a eu le colonialisme, il y a eu tout un tas de choses qui ont existé. Et il s'est dit, bah tiens, pourquoi pas ne pas regrouper ça et démontrer aux gens que c'est cette base historique qui fait qu'aujourd'hui encore, les personnes noires sont vues comme inférieures, y compris dans des pays qui se disent civilisés et où on dit que non, ici, il n'y a plus de racisme. Et il dit, bah non, c'est pas vrai. Donc, il essaye de démontrer ça. Mais il s'est dit, pour arriver à monter ça, il faut que j'arrive à prendre des acteurs et des actrices à chaque fois de la région où je me trouve. Donc, quand il vient exposer en France, quand il vient monter sa pièce en France, il prend des acteurs et actrices, professionnels ou non, du pays, et il les forme pour faire Exhibit B ici. C'est-à-dire que les gens que vous allez aller voir à Saint-Denis, ce sont des Français noirs, voilà, ou français, enfin je dis des gens qui vivent en France plutôt, parce qu'on sait pas, je m'en fous de la nationalité, des gens qui vivent en France, noirs, et qui rejouent ces scènes. Donc c'est pas des imbéciles, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des gens qui pleinement sont au courant de ce qu'ils font, du projet, de pourquoi il a été monté. Ça, c'est extrêmement discuté. Et ça ne se fait pas tout seul. Sauf que, on a un petit monsieur qui a décidé, dans son coin, et qui fait partie du mouvement Ensemble, membre du Front de Gauche, de lancer une pétition contre Exhibit B en disant que c'était inadmissible parce que c'était du spectacle digne de ce qui se faisait au 19e siècle, c'est-à-dire des zoos humains avec des noirs. Mmh. Alors là, je vous avoue que moi, personnellement, ça m'a un peu scié. Je me suis dit, je crois qu'il a pas trop compris la démarche, le monsieur, hein, quand même. Mais il dit, oui, mais si, c'est du zoo humain, comme l'a dit dans The Guardian, un article qui dit que c'est du sensationnalisme et du zoo humain. Alors, je voudrais juste rappeler que dans The Guardian, la personne qui a écrit est un polémiste, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui passe son temps à cracher sur tout ce qui se fait dans la culture et qui déteste la culture, pour être très clair. Et c'est pas n'importe qui. C'est un petit peu comme si en France vous preniez les propos d'Éric Zemmour au sérieux. C'est un peu, pour moi, c'est à peu près du même niveau.
Le problème, c'est qu'il y en a qui le prennent aussi.
Oui, voilà.
Oui. Sauf que moi, j'espère quand même qu'à gauche, personne ne prend les propos d'Éric Zemmour au
Mais
sérieux.
Le problème, c'est ça, c'est le glissement quand même aujourd'hui voilà. De la gauche vers la droite. Quoi.
Sauf que là, on a des gens qui se donc réclament de la gauche, de gauche hein, d'ailleurs, et qui appellent au boycott au nom d'un zoo humain reconstitué, que c'est dégueulasse, tout ça, tout ça. Alors, ils ont tout essayé quand même. Hein. Pour essayer de l'interdire, ils ont fait une pétition qui a été signée par 25 000 personnes. Alors, ce qui est assez génial, c'est que c'est 25 000 personnes qui n'ont pas vu voilà. C'est a priori, hein, qu'on signe, c'est pas a posteriori. Et puis, ils ont essayé de prendre des gens pour aller dans le sens de leur cause. Donc, ils ont dit à la Ligue des droits de l'homme, c'est dégueulasse. Sauf que la Ligue des droits de l'homme, elle a visité l'exposition et que tous ceux qui en sont sortis ont dit, c'est non seulement salvateur, mais c'est surtout excellent pour comprendre l'histoire. Mmh. Alors, ils se sont dit, on va aller chercher Lilian Thuram, parce que vous savez, Lilian Thuram, c'est un petit peu le monsieur, voilà. Il l'a visité quand il est sorti. Il a dit c'est dérangeant, mais c'est extrêmement important qu'on puisse voir l'histoire en face. Et voyez, c'est-à-dire qu'en fait, tous ceux qui voient cette exposition comprennent ce qu'a voulu faire le réalisateur et ce que veut faire cette troupe. Parce que lui, il insiste beaucoup, c'est pas lui, c'est la troupe qui compte. Mmh. C'est-à-dire que lui, tout seul, il fait rien. C'est vraiment parce que les gens s'imprègnent et prennent en compte ce qui veut être porté pour que ça marche. Et en fait, ce qui est étonnant, donc, c'est que comme ça ne suffisait pas hein, de faire une pétition, ils ont essayé de bloquer l'entrée du théâtre.
C'est vachement tendance. Hein.
Ouais, c'est tendance en ce moment. C'est-à-dire quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, tu bloques l'entrée puis t'empêches de rentrer. Ça, c'est vachement bien. C'est bien, surtout c'est le débat hein, a priori.
Oui, puis c'est bien après de prendre la liberté sur certaines choses, quoi.
Voilà.
C'est la liberté pour moi. Pas pour les autres.
Mais voilà.
Voilà. C'est surtout qu'alors moi je vais revenir là-dessus puis je vais vous lire un texte après d'un rappeur qui est issu comme il le dit lui-même d'une minorité ethnique qu'on refuse de voir, c'est-à-dire qu'il est guadeloupéen et noir, donc ou martiniquais et noir, je sais plus, mais enfin je vous le dirai ça. Et du coup il fait un texte où ça résumera bien la pensée ce qu'on dit là. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ces personnes qui veulent interdire vont même à l'encontre des gens qui font la pièce. Mmh. Parce qu'à la fin de la pièce, vous avez un livre d'or où est écrit les ressentis de tous les comédiens. D'accord. Où ils expliquent, en fait, pourquoi ils ont fait cette pièce-là, pourquoi ils estiment que c'est important et qu'est-ce que ça leur fait à eux, qui sont les premiers concernés par cette pièce. Mmh. Et ce qu'il y a d'assez hallucinant, c'est que vous allez avoir des choses comme... comme des témoignages d'une personne qui dit « Je connaissais mon histoire parce qu'on en dit, je la connais maintenant par le vécu. » Et en fait, c'est ça, c'est ressentir l'émotion. Alors, comme ça suffisait pas d'essayer de bloquer et tout, maintenant on en arrive à la fameuse « Je monte des communautés les unes contre les autres » et donc on en est à « Ah, mais si ça avait été des juifs qu'on aurait mis dans des camps de concentration, ah là, tout le monde aurait dit qu'il faut l'interdire. » Alors, je vais essayer de garder mon calme. Quand vous en aurez marre d'utiliser les arguments de Dieudonné, vous m'appellerez et on essaiera de discuter calmement. Mais moi, je vais vous expliquer quelque chose. Si vous êtes déjà allé au cinéma récemment et vous êtes allé voir des films comme Shoah ou de Lanzmann, ou que vous avez vu des films comme La Liste Schindler, ou vous avez vu La Vie est belle, ou Le Pianiste, vous avez peut-être remarqué qu'on a fait rejouer à des comédiens des gens dans des camps de concentration pour vous faire ressentir ce que c'était que de vivre dans un camp de concentration. Et bien, figurez-vous que là, c'est la même chose, mais au théâtre. Alors, ça peut vous déranger et vous poser problème. C'est le but. C'est le but, c'est de vous interroger et de vous poser problème. Mais ne dites pas que ça ne s'est jamais fait, parce que ça s'est fait. Il y a des pièces aussi sur les camps de concentration où des gens rejouent des personnes. Moi, je suis allé en voir une, j'ai oublié le titre, je suis désolé, j'ai cherché, je ne l'ai pas retrouvé. Où vous passiez une heure en face de quelqu'un qui lisait des lettres de prisonniers des camps, où la personne était habillée en prisonnier de camp, où elle avait volontairement perdu du poids pour ressembler à une personne famélique, et où elle vous regardait dans les yeux en lisant les lettres. Mais c'est exactement ce qu'on fait dans Exhibit B. Ça n'est pas autre chose. Et je ne vois vraiment pas en quoi on essaye de mettre cette espèce de sous-entendu un peu merdeux entre deux communautés où une serait plus protégée que l'autre. Je trouve ça juste terrible et je trouve ça honteux. Voilà.
Mais je trouve que ça répond vraiment à ce climat, à cette ambiance où la gauche, en fait, ne fait que servir la soupe de manière plus qu'outrancière à l'extrême droite. Oui. Parce que, au final, on se censure. La censure, c'est un outil d'extrême droite. Je ne vais pas aller plus loin. La chose, on en débat. La meilleure chose, de manière de combattre le fascisme, c'est de le déconstruire. Mmh. C'est juste, c'est gerbant. Et en même temps, tu te demandes justement. Alors, il y a ce truc-là. Je pense que la différence entre cinéma et théâtre, je pense que ça aide plein de gens aussi à se dédouaner quand t'es derrière ton écran. Oui, il y a une distance de fait entre.
Il a plus la distance.
Et oui, justement. Et ça renvoie peut-être encore plus directement à soi-même, quoi.
Mais il y a des choses qui ont existé. Moi, je sais que ça s'est fait aussi au Rwanda, par exemple. C'est-à-dire qu'au Rwanda, il y a des pièces de théâtre qui ont été montées, un peu du même genre que Exhibit B, pour parler du massacre rwandais, pour parler du génocide. Et ça sert aussi à ce que les gens n'oublient pas et qu'on regarde son histoire en face et qu'on dise pas non, ça a pas existé, parce que c'est trop facile après. Quand c'est une ligne dans un livre d'histoire, vous l'oubliez en deux minutes. Quand vous l'avez vécu dans votre chair intérieure, c'est-à-dire quand vous êtes descendant d'esclaves ou quand des choses comme ça, c'est ancré dans votre famille. Et ben, le but de cette exposition, c'est d'arriver à faire le lien entre les gens qui ne seraient pas touchés en théorie et les gens qui sont extrêmement touchés parce que descendants d'eux. Et quand on n'arrive pas à comprendre ça et qu'en fait c'est juste une jonction et un lien, je crois qu'on a tout paumé sur à quoi sert l'art en fait. Je vais juste vous lire un texte parce que après je vais prendre trop de temps. Alors c'est un gars qui est un rappeur qui s'appelle D Cabal et il a écrit Exhibit D. Volontairement. Alors je vous lis le texte. Ils sont nombreux à avoir signé cet étrange appel à l'interdiction d'un spectacle. Spectacle déambulatoire, cette proposition particulière, ce dispositif qui dérange, bouscule, interroge. Ils sont nombreux à vouloir censurer l'innommable, nombreux. Parmi eux, certains amis, proches, collègues et autres compagnons de route. Il y aurait beaucoup à dire sur ce phénomène aussi effrayant qu'assourdissant. Je vais m'arrêter ici sur un seul aspect et tenter de faire entendre une autre voix qui n'est pas moins pourvue d'humanité que celle qui hurle leur indignation depuis quelque temps. Chers tous, chers signataires, je ne peux soutenir une idée selon laquelle certains spectacles devraient être purement et simplement interdits. Certains spectacles devraient s'attirer les foudres du public, oui. Certains spectacles devraient fléchir sous les avis acérés de la critique, oui. Certains spectacles devraient susciter l'indignation, le refus, l'écœurement, le dégoût, le plus profond, oui. Mais les interdire, non, jamais. Interdire au nom de quoi? D'une certaine idée de l'éthique? Qui donc énonce les lois qui régissent cette idée de l'éthique? Nous, le peuple de France aujourd'hui en 2014, soyons sérieux. Regardons autour de nous, jetons un œil sur les chiffres des audiences télévisuelles, des ventes de livres, les programmes de divertissement les plus regardés, les DJ les plus en vue, l'éloge de la culture de masse et de la séduction du grand public comme unique exercice de style. Ce serait donc le grand public qui édicterait les lois de l'éthique, soyons sérieux. C'est une option envisageable et tous, nous le savons. chers tous, chers signataires de cette pétition qui demande l'annulation de ce spectacle, je vous vois déjà bondir sur vos sièges. Mais oui, il s'agit bien là d'un spectacle. Nous sommes dans le domaine du spectacle vivant. Celui-ci a nécessité de la réflexion, de l'écriture, du financement, du recrutement, des répétitions, de la mise en espace, de l'organisation autour des lumières et des différents aspects techniques, de l'accueil et de la promotion autour d'un lieu de diffusion. Oui, tout cela. Oui, du travail en somme. Chers signataires, en refusant de parler d'Exhibit B comme d'un spectacle, en refusant d'accepter la véritable identité de cette bête monstrueuse qui vous choque, vous êtes sur une pente glissante. Moi, des cabales, antillais et descendant d'esclaves, je réprouve totalement le fait qu'on refuse à un être vivant la pleine jouissance de ce qu'il considère être l'affirmation de son identité propre. Pour réduire un homme en esclavage, on lui refuse la part d'humanité qui le verrait accéder aux droits se référant à ce grand groupe. Le spectacle vivant est vivant. Il vibre, transporte, bouscule, interroge, abasourdit. Parfois, il est. Il a une identité. Je le vois comme un être. Refuser d'admettre qu'Exhibit B est un spectacle sous prétexte qu'il mettrait des noirs en scène dans des postures humiliantes, c'est refuser aux comédiens qui lui donnent vie le droit d'être des hommes et des femmes libres, c'est cantonner ces êtres à une couleur de peau et les réduire, c'est refuser d'admettre qu'ils sont des acteurs, des performeurs, c'est les enfermer dans le rôle que vous avez décidé, la plupart sans avoir vu le travail dans son ensemble, de les faire jouer. Vous en faites juste des noirs, et, de mon point de vue, cela est criminel par les temps qui courent. C'est affirmer à voix haute qu'ils sont des victimes de l'histoire et non pas acteurs de la mémoire de celle-ci. C'est dire à ces individus que ce qu'ils ont accompli n'est pas du travail, mais de l'exploitation à leur insu. Vous faites de ces acteurs des victimes, et c'est ce qui, selon moi, est inacceptable. En laissant ce spectacle se jouer, en le critiquant, même violemment, vous rétablirez l'équilibre de la bienséance et de la dignité dont cette pétition tente maladroitement de se faire l'écho. Chacun est libre d'aller voir un spectacle et de se faire sa propre opinion. Aucune prise d'otage dans la démarche de se rendre au théâtre ou de ne pas y aller. Si certains bloquent l'accès et empêchent le public de se rendre sur place et de prendre en plein cœur le fruit du travail des comédiens et du metteur en scène et de l'équipe technique et de l'équipe qui accueille l'événement, il y a prise d'otage. Prise d'otage du public, prise d'otage des artistes et de l'équipe du théâtre. Chers tous, chers signataires, si vous faites cela, vous empêchez les acteurs d'être des acteurs et vous criez au monde qu'ils sont des victimes et en plus vous le faites de force contre leur gré. Ceci est à méditer, je pense. Quant à la place accordée aux comédiens issus de la diversité sur les plateaux de théâtre en France, cela pourrait faire l'objet d'une autre note, beaucoup plus longue, mais de mon point de vue, ce n'est pas ce combat qui se joue là aujourd'hui. Il ne faut pas s'y tromper. J'ai vu Exhibit B en 2012. Je n'ai vu aucune victime dans cette installation, aucune. J'ai pris de plein fouet des visages qui me disaient combien certains aspects de notre histoire étaient douloureux et combien il était important de pouvoir se poser en acteur de nos mémoires et non en position victimaire. Que ceux qui ne veulent pas entendre et voir cette proposition n'y aillent pas, aucun problème. Il paraît que chaque année, des millions de spectateurs ne vont pas voir certains spectacles, les chiffres sont formels. Merci d'avoir pris le temps de me lire, bien à vous. Des cabales, auteur, rappeur, slammeur, metteur en scène, performeur, poète. Bobigny, 93, le 25-11-2014. Et ben voilà. Musique.
Écoutez ma chanson bien douce, que Verlaine aurait su mieux faire. Elle se veut discrète et légère, un frisson d'eau sur de la mousse. C'est la complainte de l'épouse, de la femme derrière son grillage. Ils la font vivre au Moyen-Âge, que la honte les éclabousse. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Elle ne prend jamais la parole en public, ce n'est pas son rôle. Elle est craintive, elle est soumise, pas question de lui faire la bise. On lui a appris à se soumettre, à ne pas contrarier son maître. Elle n'a droit qu'à quelques murmures, les yeux baissés sur sa couture. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Elles respectent la loi divine qui dit par la bouche de l'homme que sa place est à la cuisine et qu'elle est sa bête de somme. pas question de faire la savante, il vaut mieux qu'elle soit ignorante. Son époux dit que les études sont contraires à ses servitudes. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetées dans l'obscurité. Jusqu'aux pieds, sa burqa austère est garante de sa décence. Elle prévient la concupiscence des hommes auxquels elle pourrait plaire. Un regard jugé impudique serait mortel pour la captive. Elle pourrait finir brûlée vive, lapidée en place publique. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées. Les hommes les ont rejetés dans l'obscurité. Jeune femme, larguez les amarres, refusez ces coutumes barbares. Dites non au manichéisme, au retour à l'obscurantisme. Jetez ce mouchard à pied triste, né de coutumes esclavagistes. Et au lieu de porter ce voile, allez-vous-en, mettez les voiles. Quand la femme est grillagée, toutes les femmes sont outragées, les hommes les ont rejetées dans l'obscurité.
Vous êtes bien sur Radio Canu, c'est La Causerie, 22 23, le dimanche, sur le 102.2, radiocanu.org. Vous venez d'entendre Pierre Perret avec La Femme Grillagée. Et c'était pour illustrer le sujet dont je parlais avant. Alors pas parce qu'il y a un lien direct avec l'exposition, mais parce qu'en fait, Pierre Perret a été accusé par certains bien-pensants d'islamophobie suite à cette chanson. Je vous laisse juge de cette accusation. Voilà. Et Jean-Yves, toi, tu voulais parler d'un sujet qui fait souvent qu'on a du mal à aborder, et, mais qui est la fin de vie, en fait.
C'est ça. On va parler de la fin de vie pour cette fin d'émission. C'est pas beau, ça ? Waouh, le boulot, vous croyez ? Vous imaginez pas. Alors, en fait, oui, j'avais envie de parler de la mort. C'est un sujet qui n'est pas forcément toujours très drôle, quoique on en a déjà pu en rire ici, et pas que ici aussi. Et donc, voilà, mais qui est un sujet inévitable, hein, parce que...
On y passe tous.
Ouais, c'est ça que je voulais rappeler. C'est tout ce qui est vivant a vocation quand même à mourir à un moment donné. Donc, voilà. Et en fait, j'avais envie de vous en parler suite à un nouveau suicide médiatisé d'un vieux et d'une vieille, parce que j'ai envie de les appeler comme ça. Et ça s'est passé à l'hôpital Ambroise Paré, à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine. Et c'était donc le dimanche 23 novembre. Alors en fait, pour situer un petit peu, c'est après une première tentative, en fait, 15 jours avant, à l'aide de médicaments, qui a échoué, bien évidemment, qui a emmené ce couple de vieux. C'est dit avec tendresse, hein, y a pas de.
En fait, ils ont voulu déjà faire un suicide.
Voilà,
à deux pour mourir ensemble, en fait.
C'est ça. Et donc, en fait, l'époux, lui, il est sorti un peu plus tôt de l'hosto parce que lui, il avait mieux récupéré. Et en fait, il est revenu avec un 22 long rifle. Il a tué sa femme avant de se mettre une balle à lui-même. Donc voilà. On peut peut-être aussi, se rappeler de Bernard et Georgette Cazès, qui avait 86 ans, et c'était, on les a surnommés les vieux amants du Lutetia, parce qu'en fait, le 22 novembre 2013, ils se sont foutus en l'air aussi. Sa femme, elle devenait aveugle, et il et elle ne s'imaginaient pas l'un sans l'autre, en fait. Et on les a retrouvés main dans la main, dans la chambre du Lutetia, donc c'est un palace, hein, et la tête recouverte d'un sac poubelle.
C'était des gens qui avaient mis toutes leurs économies, je crois, en plus, pour se payer cette place.
Ouais.
Cette chambre, enfin, mourir dans le luxe. Voilà.
Et donc, je vous dirai après quand même un extrait de ce qu'ils ont laissé, parce qu'on laissait une lettre. En fait, moi, ce qui me choque, en fait, dans tous ces trucs, c'est que ce soit ce couple, Bernard et Georgette, les amants de Lutetia, ou le cas plus récent, ce qui me choque, c'est pas que les gens souhaitent se foutre en l'air, enfin, souhaitent mourir, c'est la violence, quoi. C'est-à-dire que t'es obligé de foutre une balle dans la tête à ta femme avant de t'en foutre une à toi. T'es obligé de te foutre un sac poubelle sur la tête pour. Enfin, je trouve que c'est assez terrible. Donc voilà. Enfin, c'était. Enfin, ça m'a un peu. Ça m'a un peu fait m'interroger sur tout ça parce qu'au final. Enfin, je trouve que c'est violent encore une fois. Et donc, bref. Les vieux amants du Lutetia, en fait, eux, ont laissé une lettre. ce que n'a pas fait le dernier couple qui s'est suicidé. Et donc, ils ont laissé une lettre disant « La loi interdit l'accès à toute pastille létale qui permettrait une mort douce. De quel droit empêcher une personne n'ayant plus de charge, en règle avec le fisc, ayant travaillé toutes les années voulues et exercé ensuite des activités de bénévolat dans des services sociaux, de quel droit la contraindre à des pratiques cruelles quand elle veut sereinement quitter la vie ?» Et en fait, tout ça, ça m'a fait un peu m'interroger autour de tout ce que c'est. Ben, c'est quoi la loi de l'euthanasie?
En fait, il demande le droit au suicide assisté. En fait.
C'est ça, en fait. Il demande juste à ce qu'on puisse avoir, enfin, ce qu'il puisse avoir accès à, comme ça se fait en Suisse, comme ça se fait dans d'autres pays, avoir accès par un médecin, etc. C'est pas du tout fait. C'est pas, tu vas dans un drugstore, tu t'achètes ton truc et tu crèves. Hein. Il y a quand même il y a de l'encadrement derrière tout ça. Mais c'est, tu prends ta substance et tu sais qu'un quart d'heure après, ben, c'en est fini pour toi et que voilà, c'est ton souhait. Et donc, ça m'a fait revenir un peu sur la loi Leonetti, sur tout ça. Et en fait, la loi Leonetti de 2005, elle a instauré un droit au laisser mourir, qui favorise en fait les soins palliatifs. Ça autorise l'administration par les médecins de traitements antidouleurs permettant de soulager la souffrance, mais avec pour effet secondaire d'abréger la vie d'un malade en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable. Donc en fait, là aussi, ça interroge beaucoup parce que... Enfin bon, bref, je vais continuer de détailler.
Déjà,
parce que
la loi Leonetti, elle limite le nombre de cas. Parce que c'est la médecine qui fixe qui a le droit ou pas, qui est dans la case pour avoir le droit d'être sédaté pour se laisser mourir. Quoi.
Et là, justement, en faisant toutes ces recherches sur tout ça, je suis tombé sur l'interview d'un homme qui s'appelle Philippe Bataille, qui est sociologue et il est auteur de « À la vie, à la mort, euthanasie, le grand malentendu ». Entendu. Donc c'est une interview que j'ai lue via Le Monde. Et en fait, il parle donc des 10 000 suicides en France, dont un quart sont liés à l'âge et à la maladie. Ça en fait quand même entre 2 et 3 000, hein, c'est pas anodin. Et donc pour lui, la dernière affaire médiatisée, en fait, elle n'a rien fait bouger, elle ne fera rien bouger. Et même si une mission parlementaire devrait rendre les conclusions d'une mission là, le 10 décembre, en fait, il ne s'attend pas du tout à des avancées, en fait. Ce qui est intéressant lui aussi, c'est qu'il parle en fait d'un palliativisme. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'évertue, enfin c'est même plus que ça, on veut absolument que les soins palliatifs ne soient pas des acteurs actifs de la mort des gens. C'est-à-dire qu'on va... On va laisser par des antidouleurs, etc. Mais on va pas mettre la dernière dose qui permettra à la personne de mourir tranquillement.
Bah, on peut donner des exemples, je crois que...
Bah justement, j'ai 2-3 exemples, en fait. Et c'est... Alors, je me suis planté, peut-être, attendez. Si, oui, c'est ça. Et en fait, c'est toujours ce Philippe Bataille qui donne ces exemples-là. Et en fait, il parle de cette loi Leonetti qui a théorisé le laisser mourir, en donnant l'exemple d'un malade, Michel Salmon, qui, suite à un AVC, a atteint d'un syndrome, alors le locked in syndrome, c'est-à-dire que tu es conscient au sein de ton corps mais tu ne peux absolument plus rien bouger, plus de bras, plus rien du tout.
Généralement il y a un œil qui bouge.
Oui, c'est ça, c'est les paupières.
Ceux qui ont vu le film Le Papillon, ça parlait de ça.
Et donc voilà, et en fait cet homme, il a demandé à mourir et donc ça a été refusé et il a dû subir l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation accompagné d'un sédatif. D'une sédation. Ça a duré 20 jours avant que son cœur y lâche. Donc, derrière ce truc de aider à apaiser les souffrances, etc., enfin, je trouve que c'est juste quelque chose d'horrible. Et moi, enfin, j'ai pas de solution, j'ai pas. Et encore une fois, je dis pas que tous les cas de suicide relèvent d'une demande de suicide assisté, parce que je pense que là-dedans aussi, il faut prendre l'isolement social, parce que ça existe foncièrement quand on devient vieux, et c'est une réalité. Le jeunisme aussi de notre société, qui au final est toujours dans la rapidité, dans au final tout ce qui est contraire quand même à la vieillesse, et c'est pas une tare, hein. C'est pas une tare quand je dis ça, c'est, on a le droit d'être lent et d'avoir son rythme, bordel. Et donc voilà, et que c'est plus, voilà, ça m'interroge encore une fois autour de tout ça, et je me suis dit, c'est quand même très drôle, c'est-à-dire que, on a tous connu autour de nous des gens qui avaient des animaux. Et alors quand on parle des animaux, on dit toujours, vraiment, c'est plein de trucs, tu vois. Et je me dis, pour les animaux, on arrive à les emmener vers l'euthanasie, à se dire, il faut pas qu'ils souffrent parce qu'on veut pas qu'ils souffrent. Et on n'est pas capable pour le faire pour nos semblables. Et en fait, moi, ça m'interroge vachement. J'ai pas de solution. C'est juste que là, encore une fois, je trouve que la violence de ces personnes âgées qui doivent se foutre un sac poubelle sur la tête pour mourir étouffé, quoi. Parce que c'est ça, la réalité. C'est que tu crèves étouffé, quoi. C'est ça, la mort tranquille. C'est ça, c'est juste terrible, quoi. Donc voilà. Enfin, c'était juste un petit énervement.
Je pense que c'est, j'ai pas non plus de solution et de, mais j'imagine encore que c'est lié à notre chère morale judéo-chrétienne qui est pour le coup là, on peut le dire, pro-life. et je pense qu'il y a ça, il y a un tabou comme il y a eu un et qui existe encore un tabou sur effectivement les IVG, qui est l'espèce de, vous savez, le droit à la vie d'un embryon versus la mort de l'embryon. Et là, on est encore là-dessus avec la suprématie de la vie à tous les coups. Qui prendrait effectivement le dessus sur d'autres choses, sur la souffrance. Moi, je trouve ça assez incroyable, quoi.
Moi, juste rectifier, le film, c'est Le Scaphandre et le Papillon, déjà. Et ensuite, je voulais juste dire que pour moi, il y a un pays qui s'appelle la Suisse, qui fait pas que des choses bien, mais qui parfois fait des choses assez intelligentes, comme tous les pays. Hein. Nous aussi, on fait pas que des choses bien, on fait aussi des choses intelligentes. Et ben, ils ont quand même eu un super beau débat sur la fin de vie et sur le suicide assisté, sur comment l'encadrer et tout ça. Et ça a pris des années en Suisse avant d'arriver. Et je pense qu'on pourrait s'inspirer quand même de ce débat, parce qu'il a été très bien mené en Suisse. Il a été mené notamment par des associations de personnes souffrantes, parce qu'ils ont ça en Suisse, qu'on n'a pas tellement en France, enfin qui ont vu, voilà, et qui expliquaient en fait que quand quelqu'un demande à mourir et qu'il le demande trois fois, c'est qu'il est sûr de son coup. C'était un petit peu leur slogan. Et ils disaient, mais au bout d'un moment, combien de temps il faut que les gens hurlent pour qu'on les entende? Et voilà. Et moi, je vous invite vraiment, même vous, amis auditrices et auditeurs, d'aller, tout est en ligne, hein. Vous allez sur le truc de la communauté helvétique et vous avez tous les débats autour du suicide assisté. Et c'est vraiment intéressant de lire ce qui a amené à ce que la Suisse légalise le suicide assisté sous cette forme-là, avec ces précautions-là, et je pense pas que ce soit un pays de fous, quoi.
Non, donc, et voilà. Puis je trouve que c'est toujours pareil, on est dans une société où plein de gens, hein, quand même, réclament cette capacité à se définir seul, à être maître de son corps, et ben, est-ce que là aussi, quand il s'agit de mourir, est-ce qu'on n'a pas le droit d'être maître de son corps, quoi? Merde, quoi. Et donc, voilà, mais je trouve que ça rejoint vachement ce que t'as dit, Emma, c'est cette morale judéo-chrétienne, où on se croit tous qu'on en est libéré, en fait, elle est toujours
elle est toujours
en couvert, et en train de nous formater, quoi. Et donc, voilà, c'est juste s'interroger autour de tout ça. Et quand tu parlais de la Suisse, moi, je me souviens, alors j'ai pas du tout le nom, mais il y avait un reportage où on suivait une femme, je crois, qui était assez connue,
une réalisatrice dont j'ai perdu le nom aussi,
Et en fait, qui avait fait le choix, parce qu'elle était atteinte d'une maladie, elle savait que ça allait.
Un lymphome, c'est quelque chose qui n'était pas soignable dans le cerveau, en fait.
Ça allait aller que en pire. Et donc, en fait, on la suit jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans sa chambre avec une assistante qui lui donne sa petite concoction et où lui dit: est-ce que vous êtes sûr de ce que vous voulez? Elle dit: oui, j'en suis sûr. Elle dit: bon, vous allez boire ça et dans 15 minutes, vous serez morte. Et ben, regardez ça et dites-vous que c'est pas. Enfin, je sais pas, c'est juste. Voilà, de l'autodétermination.
C'est vrai.
On a peut-être le droit de laisser ça. Et moi, alors, j'ai fini pour ce sujet. Je sais pas si vous aviez d'autres trucs à rajouter. Sinon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe pas tout de suite le titre. On terminera avec le titre qu'on avait prévu. Et qu'on fasse vite fait les brefs, parce que Rémi, il est là pour les yeux grands ouverts.
Ouais.
Et bon, ce serait bien qu'on squatte pas les antennes juste
allez.
À ça.
Hein, on est d'accord. Alors, attends, les brefs.
Ouais, super. Alors, quelques rendez-vous cette semaine?
Déjà, ça commence demain au tribunal d'instance, c'est rue Servian, c'est à 13h30. Vous savez qu'il y a eu une manifestation contre le Front National et les violences d'État et le racisme d'État qui s'est tenue hier, et il y a eu des interpellés, il y a des gens qui passent en comparution immédiate, et ce serait bien d'aller les soutenir. Donc, je le répète, demain, 13h30, tribunal d'instance, rue Servian, c'est à côté de la place Guichard.
C'est ça. Et je crois qu'il y a aussi quelque chose qui se passe demain à Arris.
Oui,
demain, c'est la Saint-Sida, comme diraient nos copines des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Donc oui, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Donc ça se passe à Arris entre 13h et 19h30. Voilà, c'est pour pas oublier, et puis pour pas oublier que ça fait toujours des morts. Et je le dis, dépistez-vous.
Ouais.
Voilà.
Ensuite, on passe au vendredi 5 décembre. C'est organisé par la MJC Jean Massé, et c'est à la MJC Jean Massé, toujours à Lyon, dans le 7e arrondissement. C'est la projection et un suivi d'un débat du film Pôle emploi, Ne quittez pas. Et c'est organisé aussi par donc la MJC, Table Rase et Ciné Travail. Et en fait, derrière, c'est toute une réflexion autour, il y aura des gens, des travailleurs et des travailleuses qui sont des salariés de Pôle emploi, mais il y a aussi des syndicalistes. Donc c'est toujours cette discussion autour du travail, et est-ce que ce serait pas plutôt le travail le problème plutôt que les chômeurs. Donc voilà.
Et le 6 décembre, à la librairie La Griffe, à 15h, vous avez une rencontre-débat autour du thème la nature, sexe, genre et capitalisme. Et donc là, Jean-Yves va vous dire qui est là pour le débat, parce que je n'ai pas noté le nom de l'auteur, je suis désolé.
Ok. Alors l'auteur, je suis désolé, je vais écorcher le nom. C'est Monsieur Weinstein, je pense. En tout cas, vous allez sur le site de La Grille, vous devriez trouver les infos, et en tout cas, je pense que le débat peut être très intéressant.
Et pour vous remettre de ce débat, vous avez à 20h Mehdi Alouane, qui sera donc, qu'on a reçu il y a 15 jours maintenant dans la causerie, qui sera
à la triperie,
rue, 22 rue Humbert Colomès. C'est 10€ l'entrée et c'est à 20h.
C'est ça.
Et les billetteries sont sur place.
Oui, et prévoyez de bouger bien à temps, parce qu'on sera dans plein Fête des Lumières, je pense. Donc, prévoyez tout ça. Et ensuite, un dernier rendez-vous, alors qui lui est assez loin de Lyon, il a 1h, 1h30 de Lyon, et c'est en fait c'est un rendez-vous à 18h sur le parking du lac de Roibon, dans le 38. En fait, c'est pour une marche au flambeau contre un center park. Voilà. Et donc voilà, c'est un message des écureuils et des...
Je sais plus.
En tout cas, l'asso qui a passé le message est très très. Enfin, j'ai trouvé.
Allez sur Rébellion.
Donc voilà, c'est encore une fois aussi pour dénoncer ces projets inutiles, cette stérilisation de la nature en fait, parce que Center Park c'est quand même vachement ça. Donc voilà.
J'en profite quand même pour faire un petit appel et rappeler que Radio Canu a besoin d'argent, parce que vous savez qu'on est un petit peu dans la mouise et que on aimerait pouvoir acheter un local pour pouvoir pérenniser Radio Canu sur les années qui viennent. Donc n'hésitez pas à aller sur radiocanu.org, vous aurez toutes les informations pour savoir comment on nous donne des sous, ou venir le mardi entre 19 et 20h pour venir remettre vos chèques ou votre liquide. Voilà. Et on va terminer.
Ouais, on va terminer. Et moi, je voulais juste aussi vous dire, parce que c'est une info qu'on n'a pas forcément passée, c'est que Radio Canu était sur le salon des éditions libertaires le week-end dernier. Et en fait, on a fait des interviews là-bas, etc. Je vous invite à aller voir le blog des archives de Radio Canu. Il y a plein d'interviews assez intéressantes avec des collectifs, avec des auteurs. Donc voilà, parce que...
Et en ce qui concerne la causerie, alors, les 7 et 14 décembre, vous n'aurez pas la joie de nous entendre en direct. Nous allons vous diffuser deux documents.
Ne soyez pas tristes.
Ne soyez pas tristes, parce que c'est quand même la causerie. Hein. Vous verrez, ça ressemble à la causerie quand même. Donc ce sera autour des caracoles de sucre. Voilà, je vous laisserai découvrir ce que c'est. Bon, tout ce qu'on peut vous dire, c'est Ardèche et ferme autogérée.
C'est ça.
C'est beau.
C'est ça. Voilà. Et ben on vous laisse là, je crois bien, en tout cas pour nous.
Et on se quitte sur quoi?
On se quitte sur un titre que j'apprécie beaucoup. On se quitte sur Tchaïkovski avec l'ouverture 1812, qui est tirée, c'est la version qui a servi dans le film V for Vendetta.
Ouais.
Voilà. On vous souhaite quoi? Une bonne soirée.
Une bonne semaine.
Oh, une bonne nuit.
Oui. Et on vous dit en direct à dans 3 semaines.
Ouais,
c'est ça, mais on sera là quand même en playback, j'allais dire.
En replay.
Et bonne soirée à toutes et à tous.
Et on vous laisse avec les yeux grands ouverts.
Yes, ciao.